Appelez le baby Philippe à la guitare sonorita.
Radio Grenouille participe à la fête qui est organisée pour les 50 ans de la Cité des Rosiers à Sainte-Marthe dans le 14e arrondissement de Marseille, les vendredis 23 et samedi 24 novembre 2007. Une fête de deux jours dans la cité et au centre social dans laquelle il y aura des installations artistiques, un repas de quartier, des projections, une conférence, une braderie, du théâtre forum, des ateliers de coupé-décalé et la pose de la plaque « Les Rosiers, patrimoine architectural du XXe siècle » par le ministère de la Culture. Tous les jours, à 14h, sur les 3-8, entre le 19 et le 23 novembre, des interviews et témoignages de certains acteurs et organisateurs de cet anniversaire des 50 ans. Aujourd'hui, Sylvie de Nantes, chargée de mission patrimoine du XXe siècle à la Direction régionale des affaires culturelles de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Patrick de Pigrinoc. Yeah. Woo.
Lorsque, en 99, le ministère a lancé cette opération, c'était un programme d'action concernant l'ensemble du patrimoine du XXe siècle, avec des volets, des diverses facettes. Il s'agissait de renforcer la protection juridique, c'est-à-dire de faire de nouveaux monuments historiques du XXe siècle, de mettre en place des campagnes de restauration et des actions de sensibilisation. Le label patrimoine du XXe siècle fait partie de ce troisième volet.
Quels sont les endroits à Marseille qui ont bénéficié de ce label ?
Alors, à Marseille, aujourd'hui, il y a une soixantaine d'édifices labellisés. Alors, labellisés, ça veut dire à la fois les édifices du XXe siècle déjà protégés comme monuments historiques, des édifices non protégés au titre des monuments historiques, et c'est peut-être de cela qu'on parlera le plus. Et puis, le cas échéant, je ne pense pas que ça se trouve à Marseille, mais des édifices qui se trouveraient dans des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, identifiés comme tels du XXe siècle. Alors, à Marseille, on a des choses dans tous les quartiers. Il y a eu deux campagnes de label, une en 2000 et une plus récente qui est celle qui va peut-être un peu plus nous intéresser aujourd'hui. On a identifié à la fois des objets remarquables, c'est-à-dire ça peut être des édifices religieux, ça peut être des bâtiments de collectivité, ça peut être du logement. Ça peut être en fait, des ouvrages d'art, toutes sortes de choses, ou même des monuments commémoratifs, par exemple, sur la corniche, le monument aux morts des armées d'Orient de Castel a été labellisé en 2000. C'est-à-dire qu'on s'attache à la fois à des objets remarquables, mais pas seulement. Il s'agissait aussi de porter un regard sur des noms peut-être moins connus, mais qui avaient forger l'image de la ville, l'image telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc on a fait réémerger des noms de gens comme Castel par exemple, mais des architectes comme Sourdeau et plus près de nous, des gens comme Pierre Averrousse, comme Jameux, comme Devin, Cialom, Rosan bien sûr dont on parlera plus, Égère, Pouillon, qui sont les grands noms régionaux. Et Marseille, telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est beaucoup à eux qu'on la doit.
La Bourdette aussi, je crois que les tours La Bourdette ont été labellisées.
Oui, bien sûr, j'ai oublié de les citer. C'était une demande très forte de la part d'une association que nous avons examinée. Et bien sûr, Boileau et la Bourdette étaient connus et très largement connus dans d'autres régions, recensés, relevés. Et il est apparu que la qualité architecturale et urbaine de l'ensemble La Bourdette, des tours et les autres immeubles qui les constituent, justifiaient à la fois donc par ces qualités-là, mais par leur qualité d'architecture, la qualité du plan, la qualité aussi d'adaptation en cas de nécessité de ces logements, la souplesse de l'organisation intérieure qui permet donc des modifications, tout ça justifiait une prise en compte au titre patrimonial.
Alors les la Bourdette, juste pour dire, c'est celle qui surplombe le centre bourse au cœur de Marseille. Donc comment ça marche pour que ces objets bénéficient du label patrimoine architectural du XXe siècle? Là, vous disiez, c'est une association qui nous a demandé ce label. Est-ce que c'est à chaque fois le cas, c'est-à-dire des gens qui demandent à obtenir ce label, ou est-ce que c'est la Direction régionale des affaires culturelles qui lance des experts qui sillonnent tout le territoire marseillais pour repérer ce qui est menacé ou qu'il faudrait labelliser?
En réalité, la procédure qui s'appuie sur des circulaires, bien entendu, une de 99 et surtout une circulaire de 2001, la procédure est relativement proche de celle qu'on utilise pour les monuments historiques. C'est-à-dire que d'une part, il y a en fait surtout ici une démarche initiée par l'État, parce qu'il faut reconnaître qu'au début, on ne nous demandait pas beaucoup de prendre en compte ce patrimoine. Donc c'est nous qui avions eu une action volontariste. Et puis peu à peu, en particulier dans cette région, l'opération a eu du succès, si bien qu'aujourd'hui, on reçoit des demandes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui encore, c'est nous-mêmes également qui initions des actions complémentaires. On a eu, je l'ai dit, une première campagne en 2000. Depuis, on a lancé un certain nombre d'études sur les champs qui nous paraissaient incomplets. Il faut savoir que cette architecture et cet urbanisme du XXe siècle sont méconnus. Et c'est vraiment un des problèmes. On pourra en reparler. Ça veut dire que paradoxalement, l'époque qui a le plus construit est la moins connue. C'est-à-dire qu'on a plus construit dans ces années-là, on va dire dans le courant du XXe siècle, que tout ce qui s'était construit auparavant. Donc on a une masse énorme, une production énorme, qui n'est pas triée et bizarrement qui n'est pas connue. Aujourd'hui, nous en sommes à lancer des études pour connaître on va dire d'abord cette architecture qui n'est pas encore du patrimoine. Pour l'identifier, pour en faire l'histoire. Ensuite, on est obligé de faire des sélections. Tout n'est pas parfait, tout n'est pas à conserver, mais il y a des choses tout à fait intéressantes. Et les études que nous avons lancées dans divers domaines nous ont permis de pointer des programmes ou des ensembles de qualité.
Quels sont les critères de sélection pour bénéficier de ce label?
Alors, je voulais d'abord aborder un point souligner un point important en ce qui concerne le label. Si j'ai dit que la procédure se rapprochait de celle pour les monuments historiques, il y a une grosse différence et sur laquelle repose en fait toute la philosophie de l'opération, c'est qu'il n'y a pas d'incidence juridique ni financière. Donc, on travaille beaucoup sur l'idée d'un échange avec les usagers. Il s'agit de repérer, de faire connaître auprès du public et des usagers, des ensembles de qualité. Mais c'est autant les gens qui nous apportent que l'inverse. Alors, les critères de sélection, ils sont à nouveau assez proches de ceux qu'on souhaite pour les monuments historiques. Donc, c'est des critères que tout le monde connaît, qui ont été également décrits dans des circulaires du Conseil de l'Europe, dans des recommandations. C'est important de le dire, qui datent de 1991. Et déjà à cette époque, le Conseil de l'Europe avait souligné l'intérêt qu'il y avait à s'attacher à cette architecture et à cette production. Donc, d'une part, il va y avoir des qualités stylistiques propres. Mais d'autre part, il va également y avoir, et c'est très important, des ensembles qui sont représentatifs et significatifs de l'histoire, donc de l'histoire culturelle, de l'histoire des techniques, de l'histoire d'une période, de sa production. On est dans une période de forte demande, beaucoup de choses sont réalisées. Toutes ne sont pas du même intérêt. Ce qui nous intéresse, c'est de faire connaître de faire connaître et donc de reconnaître des témoignages significatifs de l'histoire et de l'architecture d'une période. Pas seulement des objets remarquables, mais la façon dont il a été répondu à un moment donné à des questions. Et évidemment, dans le domaine du logement, qu'il soit collectif ou privé, mais en l'occurrence, le logement collectif est une des choses sur lesquelles on a mis l'accent ces dernières années. Il faut toujours avoir en tête que ce qu'on a sous les yeux constitue des réponses à des questions difficiles qui se sont posées, en gros dans les Trente Glorieuses et au-delà. C'était produire beaucoup, vite, pour un grand nombre de gens. Et il faut vraiment estimer ce qu'on a sous les yeux à l'aune des questions qui se posaient à l'époque et comme témoignage. Il y a aussi donc la question des productions en série. C'est à réévaluer. Quand on dit grands ensembles, je trouve que c'est un terme qui est assez amusant si on le compare à d'autres typologies. Vraiment, il y a une question de langage. Est-ce que pour un autre patrimoine, on dirait les églises ou les châteaux? On va qualifier. On va dire un château Renaissance, une église de telle période, qui ont été faites pour un tel ou un tel. Quand on dit les grands ensembles, il semble qu'on ait tout dit. Pas du tout. Il y a l'étude de cette production ou de ce logement collectif montre qu'il y a des programmes, il y a des architectes qui émergent, il y a des styles, et que tout cela mérite aussi d'être qualifié. Simplement, il faut l'étudier. Et puis, parmi les critères que je voulais mettre en évidence, il y a la valeur d'usage, qui est quelque chose de très important dans la production du XXe siècle. C'est-à-dire comment le bâtiment ou l'ensemble de bâtiments apporte une réponse aux habitants. Est-ce qu'il apporte du confort? Est-ce qu'il apporte du bien-être? Est-ce qu'il apporte une amélioration dans le cadre de vie? On attend souvent cette architecture. C'est pas beau, c'est horrible, c'est répétitif, etc. Bien sûr, les choses sont plus compliquées, mais il faut surtout pas s'en tenir à la façade. Il faut aller voir à l'intérieur comment c'est fait, comment ça fonctionne, comment c'est distribué, organisé. Il faut aller regarder les espaces extérieurs. Il faut prendre le temps de comprendre. Et je crois que c'est ça aussi notre message, c'est que les choses ne sont pas données, elles doivent être étudiées, on doit sélectionner. Il y a un regard à porter sur cette production. Un regard d'ailleurs qui a plusieurs vitesses. C'est le regard qu'on peut avoir en voiture, on pourra l'évoquer pour les rosiers. Le regard du piéton, le regard du promeneur. Il faut tourner, il faut aller voir, il faut passer dessous, il faut revenir, il faut circuler. Et je crois qu'il faut, comme on le ferait pour une autre... pour un autre genre d'architecture, il faut vraiment prendre le temps de regarder. Souvent, les gens jugent sans avoir pris le temps de se poser les quelques questions qui vont justement constituer les critères sur lesquels on va s'établir.
Appliquons les critères au cas concret des rosiers, donc. Qu'est-ce qui est remarquable dans cette architecture et qui fait qu'elle mérite ce label patrimoine architectural du XXe siècle, une plaque donc qui va être opposée de façon officielle samedi 24 au Rosier à 11h.
Oui, alors effectivement, la distinction label patrimoine du XXe siècle se matérialise par la position d'une plaque signalétique. Ces plaques ont été créées par Patrick Rubin de l'agence Canal. Et elles sont proposées par le ministère de la Culture aux propriétaires qui le souhaitent. Et effectivement, la copropriété Les Rosiers a souhaité, à l'occasion de son cinquantenaire, a posé plusieurs plaques signalétiques vu la taille de l'ensemble. Alors, Les Rosiers, c'est effectivement un ensemble de grande taille, puisqu'il y a plus de 700 logements. On est à peu près dans le grand ensemble ici. Déjà, ça présente un intérêt du point de vue du montage, de l'organisation de ce programme, puisqu'il a été financé par quelque chose qui a été mis en place à cette époque-là, c'était le 1% salarial. C'est-à-dire qu'il y a eu une obligation pour le patronat d'investir 1% de la masse salariale dans des logements pour leurs employés. Et en l'occurrence, les Rosiers a été construit pour le personnel de l'huilerie Unipol, de la réparation navale, de la RATVM et de la Société des Eaux. Ensuite, il y a également l'intérêt du plan masse et de la conception des immeubles. C'est un plan masse très articulé. Ce sont des immeubles, quand on les voit, sur lesquels on se demande, par rapport aux autres barres qu'on voit, qu'est-ce que c'est que cette forme étrange ? Qu'est-ce que ce sont que ces redans ? Et c'est bien sûr en s'approchant et en les pratiquant qu'on voit un petit peu comment ça fonctionne. Donc le plan masse, les espaces extérieurs qui sont importants et qui mériteraient d'être réétudiés parce qu'on retrouve un tracé probablement antérieur qui a été conservé, ou en tout cas un vrai dessin dans les espaces extérieurs, même s'ils sont en mauvais état aujourd'hui. Et puis, quand on regarde ce bâtiment, on peut vraiment se poser des questions. On voit la façade, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ces sortes de grandes rayures qu'on voit au milieu, à quoi ça correspond ? La façade n'est pas homogène, n'est pas comme les empilements d'étages qu'on peut voir dans d'autres immeubles. C'est effectivement un des intérêts, c'est qu'on a deux ou trois étages, et puis des très larges coursives, en fait, qui ont pris le nom d'ailleurs de plateformes, et qui vont servir à la distribution et à la desserte. C'est un système assez complexe, où les ascenseurs ne s'arrêtent pas à chaque étage, mais s'arrêtent aux coursives, à partir desquelles on va reprendre un petit escalier qui va conduire à l'étage qu'on habite. Ça veut dire qu'il y a toute une circulation des habitants. Je ne fais pas de l'angélisme, ce n'est pas toujours facile certainement quand on est chargé, mais c'est comme ça que ça avait été conçu. Il y a en tout cas ces plateformes qui sont de véritables lieux de promenade architecturale à partir desquels on repart chez soi. Donc, il y a un croisement des gens, il y a des rencontres qui peuvent se faire. Et ce qu'on avait vu de l'extérieur, donc comme des grandes rayures, en réalité, ce sont des espaces de circulation fonctionnels.
Qui a décidé, comment s'est décidé cette labellisation ? C'est la copropriété qui a demandé ou ça se fait autrement ?
En ce qui concerne les Rosiers, c'est le résultat d'une étude assez lourde que la Direction régionale des affaires culturelles a commandé il y a quelques années à l'architecte Thierry Durousseau. Nous nous étions aperçus que nous avions fort peu de données, d'informations et donc de recul sur le logement collectif à Marseille dans les années de l'après-guerre. Cette étude a permis de faire émerger 500 occurrences. Dans ces 500, on a fait une sélection et Thierry Durousseau nous a proposé une vingtaine d'ensembles qui ont été examinés par la Commission régionale du patrimoine et des sites l'hiver dernier, laquelle, à l'unanimité, a donné un avis favorable pour que le préfet attribue le label à ces 20 ensembles de logements collectifs de Marseille. Donc là, c'est vraiment une initiative de l'État. Mais parmi ces ensembles, certains avaient également fait, c'est le cas des Labourdettes, l'objet d'une demande d'une association. Et là, les deux se sont croisés.
Quel sens ça a pour vous de décerner ce label à cette cité qui est par ailleurs des Rosiers, qui est par ailleurs classée copropriété dégradée, c'est-à-dire un classement aussi, il n'y en a que 4 là, encore plus difficile à obtenir que le label patrimoine du XXe siècle à Marseille, et où Par ailleurs, le directeur du centre social parle d'incohérence architecturale. Il n'y a pas de sécurité incendie dans des bâtiments qui font 12 étages, par exemple.
Il ne faut pas se cacher les problèmes, ce n'est pas du tout notre objectif. Je pense qu'il y a deux choses qui marchent côte à côte. Ça n'est pas parce qu'un ensemble, aujourd'hui, présente tous les problèmes que vous avez évoqués, qu'il n'a pas été exemplaire au moment de sa réalisation. C'est un ensemble qui a 50 ans, qui fête ses 50 ans. Au bout de 50 ans, il est normal que certaines difficultés justement d'usage soient mises en évidence et soient reconnues. Ensuite, bon, qu'il y ait des problèmes dans la copropriété, ça je crois qu'il ne s'agit pas du tout de le nier, mais dans le même temps, il est important de dire qu'il y a là une qualité architecturale et urbaine. Rosan a fait là quelque chose d'intéressant. Ce n'est pas du tout contradictoire. Peut-être que ça peut aider, peut-être que ça peut apporter quelque chose. Ça ne réglera pas les problèmes de la copropriété, mais ça peut aider les gens à porter un regard, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le lieu qu'ils occupent. Et sur le plan strictement de reconnaissance architecturale, c'est notre travail, c'est notre devoir de pointer les ensembles qui ont les qualités justifiant leur intégration dans le patrimoine. Les questions que vous posez existent, mais ne doivent pas mettre en péril le jugement sur la qualité patrimoniale.
Appelez le baby Philippe à la guitare sonorita.
C'était Sylvie de Nantes, chargée de mission patrimoine du XXe siècle à la direction régionale des affaires culturelles de Provence-Alpes-Côte d'Azur. La fête pour les 50 ans de la Cité des Rosiers, c'est les 23 et 24 novembre 2007. Plus d'infos sur www.marseille2013.org/les-rosiers.
Yeah, yeah. Yeah. Oui, les balles, oh, comme à Luka Kassou et Balanga. Yo.